Steve Jobs l'avait sorti de sa poche le 23 octobre 2001 pour la première fois. L'iPod, c'est fini, point final à une révolution qui aura duré 20 ans. Moins 42% sur les prix de reprise de certains appareils. Si vous comptiez revendre votre Mac pour boucler la fin de mois, ça tombe mal. Tablé sur le 19 août au mieux pour un Mac Studio avec M1 Ultra, sur le 4 juillet pour un MacBook Pro, ce sera l'une des news dans Pommes. Les mises à jour de la semaine pour les AirPods, le Studio Display, mise à jour aussi du côté d'Adobe et de WhatsApp. L'USB-C sur toute la gamme iPhone 15, Minchi Kuo est affirmatif et on va en discuter. Comme chaque semaine, le dîner d'Eli, très immersif aujourd'hui, et puis le tuto audio, je vais vous expliquer comment extraire l'audio d'une vidéo sur un Mac. Jeudi 12 mai 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Benjamin Vincent au micro, c'est un grand bonheur de vous retrouver en ce jeudi soir, au cœur d'une semaine riche en émotions pour moi, avec un fils qui passe le bac notamment. L'heure qu'on va passer ensemble, tous ensemble, me réjouit et la team est au complet ce soir. Je vous salue d'abord Eli Abitbol, cofondateur du groupe d'Apple Premium Reseller,
MSC Croisière, tu veux partir en vacances. On a compris Benji, on a compris.
Non, c'est MCS. Bonjour, bonsoir Eli.
Bonsoir Benjamin, bonsoir la team et bonsoir
capitaine.
À tous.
On va t'appeler capitaine ce soir du coup.
Allez.
Allez, Gilles Dounès également avec nous, co-auteur, ça tombe bien, de l'excellent iPod Backstage chez Duno. Il serait temps de le réimprimer d'ailleurs, Gilles, salut.
Oui, il faudrait le remettre à jour surtout.
Ah oui, bonjour. Quand même. Une bonne tranche d'histoire, on va en parler évidemment avec toi ce soir. François Le Truédic, enseignant à Vannes, professeur d'informatique et d'audiovisuel à l'Université catholique de l'Ouest Bretagne-Sud. Je le dis jamais assez, mais je le rappelle aujourd'hui. Salut François.
T'as raison, on fait de la pub pour la structure, mais c'est trop tard. Les vœux Parcoursup ont été formulés maintenant. Vous pouvez même plus vous inscrire. Enfin, si, en procédure complémentaire, mais je dis ça parce que je suis en train d'analyser des dossiers. Donc voilà, c'est. Si vous voulez, je pourrais essayer de vous extraire un petit fleurilège des bêtises que je vais lire sur les dossiers de mes futurs étudiants. Si vous voulez, ça peut être marrant.
Oh oui. Ouais.
Vous pouvez plus vous désinscrire, surtout. Maintenant qu'on sait où t'es. Et Fabrice Neumann, menteur parfois, mais mentor le plus souvent en technologie, consultant en DSI externalisé. Salut Fabrice.
Salut Benjamin, salut la team, c'est bonjour à toutes et à tous. Menteur, jamais.
Non, jamais, surtout pas, et surtout pas sur ton site pro-fusion-conseil-au-pluriel.fr et sur Twitter.
Absolument.
Bien sûr. Vous allez bien les copains?
Oui,
mais
ça,
oui
va.
Ça va très bien.
Ça va, ça va.
Bon, ça tombe bien. Quel est, allez, comme ça, petit tour collégial, quel est le sujet qui vous excite le plus dans le programme du jour?
Les lunettes auto-nettoyantes.
Moi, les Apple Glass, bien sûr. C'est sûr. C'est...
François?
Moi, le dîner d'Eli, parce que j'ai la dalle.
Fabrice?
Et moi, plus sérieusement, le passage, j'espère, à l'USB-C partout. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça que... J'espère bien qu'on fasse un pas supplémentaire.
Bon, on va évidemment en reparler, hein, comme tu viens de l'évoquer. On a plein de rumeurs à aborder tout à l'heure avec vous autour des prochains iPhone, alors 14 et 15. On va parler écran, encoche, connectique, hein, tu l'as dit. Du nouveau aussi du côté de Photoshop sur iPad. Mais d'abord, dans 3 secondes, l'iPod, c'est fini. L'histoire avait commencé le 23 octobre 2001 et l'histoire retiendra cette date du 11 mai 2022, jour où Apple a refermé le grand livre de la saga iPod. Souvenez-vous, tout avait commencé avec le grand Steve à l'ancien QG du One Infinite Loop dans l'ancêtre du Steve Jobs Theater, cette salle, petite salle, baptisée Town Hall où la presse avait été invitée pour une annonce mystérieuse autour d'un produit numérique révolutionnaire. Entre parenthèses, ce n'était pas un Mac. C'est ce que disait Apple d'ailleurs hein, ce jour-là. Hein. Et ce jour a révolutionné l'industrie musicale. On allait le découvrir au fil des mois et des années suivantes. Il a aussi largement contribué à la renaissance d'Apple après l'iMac et avant l'iPhone. Allez, avant de tirer notre référence à l'iPod, allez, on va se donner des frissons en se souvenant comment tout ceci avait commencé.
And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod. iMac, iBook, iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, but the biggest thing about iPod is it holds 1,000 songs. Now, this is a quantum leap because it's your, for most people, it's their entire music library. This is huge. You can take your whole music library with you right in your pocket. Never before possible. An iBook is really portable, but this is ultra portable. And let me show you what I mean. iPod is the size of a deck of cards. A deck of cards. We didn't stop there. iPod has got Apple design. We got one of the best design teams in the world, and they have done a remarkable job. And let me show you. This is what iPod looks from the side. Again, about 3/4 of an inch thick. I'm going to show you the back first because I'm in love with it. It's stainless steel. It's really, really durable. It's beautiful. And this is what the front of it looks like. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. There it is, right there.
Bon, c'est un moment d'émotion qu'on revit tous ensemble. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme, comme souvenir ? Gilles, toi qui as écrit ce bouquin avec Marc Geoffroy sur, sur l'iPod.
It was right in my pocket.
Moi, je n'ai pas voulu avoir d'iPod dans les mains avant d'avoir fini le bouquin, pour ne pas être sujet à cet effet de halo et tomber sous le charme et un peu sous le, l'hypnose de ce truc qui, visiblement, captivait et ensorcelait tous les gens qui, par, qui, par les mains de qui il passait. Et donc, j'ai eu un rapport un peu décalé avec ça. Je l'ai eu en, en 2005.
Ah oui.
Une fois que le bouquin était, était fini. Ouais, ouais. Dernière ligne. Le 19 juillet, le truc part au, à la correction, et très vite après, je manipule le truc et je tombe totalement sous le charme.
Fabrice, ton souvenir de ce lancement, est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu as eu un iPod rapidement ? Raconte-nous.
Non, j'ai jamais eu d'iPod. Le seul iPod que j'ai vraiment touché, c'est l'iPod Touch que j'avais offert à ma fille il y a quelques années. Mais sinon, non, j'en ai eu dans les mains, mais j'ai pas de grands souvenirs. C'est marrant. L'iPod m'a marqué comme marqueur de l'histoire d'Apple, mais pas de mon histoire personnelle.
François, ton histoire à toi avec l'iPod ?
Moi, je le regardais avec envie, mais je l'ai découvert tardivement, je te dirais 2004-2005. Mais pour l'anecdote, avec ma première paye de prof, d'enseignant, je me suis payé un iPod, à l'époque l'iPod vidéo, le noir, qui fonctionnait toujours, que j'utilisais pendant très très longtemps, et qui un jour, la batterie a eu la mauvaise idée de gonfler. Et je ne m'en suis pas rendu compte, et manque de bol, ça a bien pété l'écran, mais il a été démonté, on a enlevé la batterie, mais je voulais recommander une batterie, j'ai jamais pris le temps de le faire, mais je trouve que ça reste un engin assez marquant d'une génération, et tu vois, j'avais pas revu la vidéo, et c'était intéressant de la revoir, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il a... On retrouve tous les gimmicks que pouvait utiliser Steve Jobs, le fait de la répétition, l'insistance sur certains mots, le parallèle comme on a pu l'avoir avec le MacBook Air dans l'enveloppe. Il y a plein de petites choses et voilà, je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel et ça fait toujours plaisir aussi de revoir Steve Jobs en forme. Parce que c'est vrai que sur les dernières keynotes de la fin des années 2000, juste avant son décès, il n'avait pas la pêche. Là, on voit voilà, plutôt bien portant. Et je trouve ça agréable aussi de garder ce souvenir-là de lui.
Ellie, quel souvenir pour toi, l'iPod ?
Oh ben écoute, 20 années passées avec ce type d'appareil, nous on l'a eu évidemment dès le début et on a eu tous les modèles après. Ce que ça m'a rappelé, à part revoir le plaisir de revoir Steve, c'est combien la technologie peut changer en 20 ans. Parce que là, les jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, on les a perdus au début de l'émission. Quand on te dit toute votre bibliothèque musicale en 5 gigas, 1000 chansons, on les a tous perdus parce que eux, ils ont des téraoctets, ils ont des dizaines de milliers de chansons.
Ils streament, ils n'ont plus rien sur leur...
Absolument. Mais t'imagines qu'à l'époque, c'était totalement révolutionnaire et en fait, Steve s'était battu avec Toshiba pour avoir le prototype du disque 1,8 qui n'existait pas. Oui, c'était un prototype, en fait. Il l'avait en labo, il ne savait pas quoi en faire. Donc...
Et ils ont acheté tout le stock.
C'est ça. Voilà.
L'exclu.
Il n'y avait pas de pénurie de composants à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Juste pour vous raconter, moi, j'ai un souvenir au moment du lancement de l'iPod. Donc, c'était un mois plus tard. Hein, c'était en novembre de mémoire. J'étais à Londres pour un... À l'époque, il y avait un salon dédié à l'univers Apple, qui était un peu l'Apple Expo britannique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il se trouve que j'étais à Londres le jour de la sortie de l'iPod et les gens se battaient pour en trouver, en fait. Il était en petite quantité.
Déjà.
Ouais. Et j'avais fini par en trouver un. J'ai un souvenir d'un prix de 500 euros. Est-ce que ça vous rappelle quelque
c'était
chose?
C'était pas l'euro déjà. C'était pas encore l'euro. C'est en 2002
d'accord.
L'euro.
Alors, bon, ok. En tout cas, j'avais, je le dis avec un peu de regret parce que je ne sais pas ce qui est devenu ce premier iPod que j'ai eu, que j'ai peut-être au fond d'un carton ou alors que j'ai perdu. Parce que je crois qu'il valent assez cher, hein, les iPods originaux. Alors, s'ils ne sont pas déballés en plus, c'est des vraies pièces de collection. Juste cette interruption, cette fin de chapitre pour l'iPod qui tombe maintenant, comment est-ce que vous l'expliquez? On va refaire un petit tour de table, Ellie.
Ben, parce qu'il ne se vend pas. Enfin, il ne se vend plus. Il a été totalement cannibalisé et remplacé par l'iPhone. C'est-à-dire que chez nous, on a vendu... Alors, j'ai quand même une anecdote. Le dernier iPod qu'on a vendu, c'était il y a presque 4 ans. 4 ans.
Non.
Mais je t'assure. Et... ils mettent donc fin au produit et ce matin, il y a un client qui veut commander un iPod. Tu le crois ou pas? Ce matin. Comme ça.
C'est normal. Parce que le communiqué de presse est passé hier, en fait. Le 10. Le 10 mai, pas le 11.
D'accord.
Et donc, les derniers qui étaient disponibles sont en rupture de stock maintenant dans la plupart des configurations sur le site d'Apple et ça sera le cas de chez les autres canaux de distribution, c'est normal.
Oui, parce qu'Apple a précisé qu'ils écoulaient les stocks en fait. Hein.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'interruption comme ça radicale aujourd'hui, enfin hier plutôt, parce que ça se passe entre le 10 et le 11 mai, un peu selon les heures locales, mais tant qu'il y a du stock, tant que vous pouvez en trouver, vous pourrez en acheter, mais...
Bon, mais c'est une bonne leçon. Alors,
il
ne
doit pas en rester beaucoup.
D'après ce que j'entends, c'est une bonne leçon. Donc, si on veut booster les ventes d'un produit, on va faire courir le bruit qui s'arrête et les gens vont se précipiter pour le commander.
François, sur l'arrêt de l'iPod, là maintenant, au bout de 20 ans et des poussières.
La vraie question, c'est, je me trompe peut-être, mais est-ce que la fabrication ne s'était pas arrêtée il y a très très longtemps? Je pense pas qu'ils aient décidé aujourd'hui d'arrêter la production. Je pense que la production était à l'arrêt depuis un paquet d'années. Tu me poserais la question de savoir de quand date la dernière révision de l'iPod Touch. Je serais bien en peine de te le dire. J'aurais dû faire bien mon travail et aller vérifier avant l'émission, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je pense qu'on va avoir, comme le dit Ellie, les gens vont se ruer sur cet iPod pour le côté collector, à l'image de ce qu'on avait pu connaître quand l'iPod classique, qui était vraiment le descendant du premier iPod, s'est arrêté. Les gens se sont rués dessus. Et je vais prendre un exemple encore plus récent, le HomePod classique, qui se vendait pas. Depuis qu'ils l'ont arrêté, il se vend en occasion le prix qui se vendait en neuf, quoi. Donc, il y a l'aspect rare. Et je t'avoue qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me prendre un iPod Touch quand même neuf. Je vais laisser dans l'emballage. Et puis peut-être que dans quelques années, ça vaudra cher. Mais je me dis, si c'est pour que la batterie commence à gonfler, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas.
Hélas.
Fabrice, on en parlait dans Hi5 hier, de l'explication derrière l'arrêt de ce produit. En fait, ça t'étonnait presque qu'il ait survécu aussi longtemps.
Oui, oui. Alors je rejoins François. Je pense que la fabrication a été arrêtée depuis longtemps déjà. La dernière révision date de 2019. Le dernier iPod Touch était équipé d'un processeur A10 Fusion, ça s'appelait à l'époque, pas Bionic. Et la révision avait été faite. J'ai vérifié uniquement en fait parce que l'iPod Touch. Donc ça, c'était l'iPod Touch de 7e génération. La 6e génération est équipée d'un A8. Et ils ont fait la révision parce que l'A8 lui-même n'était plus fabriqué. Donc il fallait bien, puisqu'ils voulaient garder ça encore au catalogue quelque temps, mettre un A10 dans l'iPod Touch. Mais globalement, depuis toutes ces années, et depuis notamment l'arrivée de l'iPad mini, l'iPod Touch qui était en gros l'iPhone pour les enfants, beaucoup, hein, on pouvait offrir ça aux enfants
sans téléphone.
C'est ce que j'ai fait moi avec ma fille. Non, bien sûr, c'est ça que je veux dire, c'est que c'était, alors c'est, ça avait l'avantage aussi d'être moins cher, naturellement, puis plus léger. Un iPod Touch, c'était moins de 90 grammes, si je me rappelle bien. Donc voilà, mais avec l'iPad mini, pour les enfants finalement c'était bien adapté, un peu plus cher, mais enfin abordable, etc., etc. Donc je pense effectivement que c'était plus fabriqué depuis longtemps. Et puis donc on a notre musique sur les smartphones, sur l'iPhone, on peut même streamer parce qu'effectivement on n'a plus besoin de télécharger depuis son ordi. Et puis pour ceux qui ont une Apple Watch, ils peuvent même faire stocker ça sur l'Apple Watch pour écouter directement sur leurs AirPods sans fil. Voilà, donc là, c'est la fin d'une époque, la fin d'une ère, parce que c'est maintenant dépassé technologiquement parlant. Même l'iPod Touch, on sourit des 1000 chansons, mais l'iPod Touch était donc dépassé aussi.
En nombre d'exemplaires vendus. En centaines de millions ou peut-être même plus d'ailleurs, est-ce qu'on a une idée du total sur l'ensemble de son histoire et par rapport à l'iPhone, est-ce que l'iPod s'est plus vendu que l'iPhone ou pas, Gilles?
J'ai entendu parler de 450 millions d'exemplaires au total.
Donc on est très loin des ventes de l'iPhone alors.
De l'iPhone, mais...
Très très loin.
C'est un peu l'intuition de Bill Gates qui avait dit croyez pas à l'iPod en disant mais de toute façon les gens veulent un appareil dans leur poche et qu'est-ce que c'est le téléphone. Il avait dit ça marchera jamais. C'est bien planté, hein. Ça a bien marché, il a même essayé de faire un ersatz, mais les usages sont passés dans le téléphone dans l'iPhone, et du coup, les ventes ont été démultipliées par les usages possibles. Il y avait quelque chose de très important pour l'iPod, qui est resté là longtemps, c'était le podcast et l'apprentissage des langues. Ça a été un outil sur lequel le podcasting pour les langues a été défriché. L'éducation nationale, bien sûr, a essayé de faire aussi bien pour moins cher avec des clés USB. C'était la grande mode dans les conseils généraux, mais on n'avait pas la même chose avec l'usage, le push pour les enseignants, etc.
Élie, puis j'ai une dernière question avant qu'on passe à la suite.
Oui, juste quelques chiffres. Donc, j'ai fait une petite recherche pendant que Gilles parlait. Et figurez-vous que Les Échos a publié un dossier aujourd'hui sur l'iPod, évidemment. C'était le bonjour. Et donc, je confirme 450 millions d'exemplaires vendus. Et ouais. Ce qui était intéressant, c'est que l'année 2008, c'est vraiment l'apogée, car Apple a écoulé 9,1 milliards de dollars de ventes à iPod. Et ça représentait 50% du chiffre d'affaires d'Apple. Dingue.
Waouh.
Ça a longtemps été la vache à lait et c'était aussi un sujet de l'effarouchement et de les analystes jouaient à se faire peur en disant que c'était une part démesurée dans le chiffre d'affaires d'Apple.
Comment a été l'iPhone après? On a vu.
Voilà, c'est ça.
J'ai une question à vous poser pour finir. Le produit qui succède, qui prend le relais de l'iPod qui disparaît, pour vous, c'est quoi aujourd'hui dans la gamme chez Apple?
Apple Music. Après, ça passera partout. Ça alors, passera pensais, par le. Gilles,
pardon, je pensais au produit hardware, pardon.
Oui.
Oui, mais c'est une vraie bonne réponse. Moi, je trouve que c'est y a rien d'autre à dire parce que justement, on n'a pas besoin de compter son catalogue musical, etc. On a un abonnement Apple Music ou Spotify, etc. C'est ça le vrai successeur. Je suis entièrement d'accord avec Gilles.
Mais sur quel device ça peut
voilà,
être...
merci Ellie, merci de comprendre le sens de ma question, merci.
Oui, moi, je dirais que par au départ, c'est l'iPhone qui a remplacé tout naturellement parce que même les jeunes qui écoutent le plus de la musique l'utilisent sur leur iPhone avec un abonnement, hein, mais ils l'utilisent sur un iPhone. Et j'ai entendu que Apple voudrait que ce soit l'Apple Watch, mais l'Apple Watch aujourd'hui n'est pas encore assez utilisé pour écouter de la musique. Donc pour l'instant, c'est l'iPhone.
François, la voix
moi,
de la sagesse.
Je suis sur la ligne de Fabrice et Gilles et je trouve que la réponse de Gilles n'est pas la réponse que tu attendais, mais je trouve qu'elle est assez pertinente parce qu'au final, aujourd'hui, la musique, on peut l'écouter partout. À l'époque, la musique digitale, entre guillemets, c'était l'ordi pour synchroniser ou pour écouter et le baladeur, mais aujourd'hui, tu l'écoutes sur ton Alexa, sur ton HomePod, sur ta montre, sur ton iPad, sur ton iPhone, sur le tout, quoi. Donc au final, ouais, je pense que le... Mais Apple a été fin une fois de plus et je vous entendais dans i5 en parlant du futur, enfin, c'était avant-hier d'ailleurs pour être précis, les lunettes, je pense que Apple a toujours eu un coup d'avance sur le baladeur MP3, sur l'iPhone, sur la tablette dans une certaine mesure, sur la montre connectée aussi et il faut que ça continue quoi parce que Apple sait se renouveler et comme vous le disiez tout de suite et je vais synthétiser comme ça, on disait Apple est trop dépendant de l'iPod, Apple est trop dépendant de l'iPhone. Dans quelques années, on dira peut-être Apple est trop dépendant des Apple Glasses.
On l'espère.
À suivre les amis, Pommes, les mises à jour, puis les rumeurs de la semaine. Mais avant tout ça, l'info de la semaine, le coup de massue pour ceux qui espéraient un bon prix de reprise pour leurs produits Apple. À tout de suite. L'info de la semaine, c'est donc ce coup de sabre d'Apple sur les prix de reprise de la plupart de vos anciens appareils. Les montants proposés par Apple ont perdu sans préavis il y a quelques jours jusqu'à 42%. C'est notamment le cas pour l'iMac Pro dont le prix de reprise aux US vient de passer de 2500 à $1380. Et dans le meilleur des cas, hein. Si on regarde les autres produits, alors par exemple pour le MacBook, on passe de 315 à $220, pour le MacBook Air de 490 à $400, pour le MacBook Pro de 1350 à $1000. Baisse aussi pour les iPads avec l'iPad Air qui passe de 335 à 290, l'iPad Pro de 680 à 655. Du côté des Apple Watch, la série 2, il n'y a plus moyen de récupérer le moindre dollar en échange. Elle n'est plus bonne que pour le recyclage. Toutes les autres séries, de la 3 à la 6, perdent $20. Et puis les iPhones ne sont pas concernés par cette baisse. L'iPhone 12 Pro Max reste le mieux coté avec un prix de reprise jusqu'à $650. Ellie, toi qui es un peu... l'homme le plus au courant de toutes ces affaires-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même très 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 significatif, 42% de révision à la baisse.
Peut-être qu'ils veulent faire un ménage de printemps financier, parce que Apple, c'est le prix de reprise chez Apple. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont reprendre plus cher si jamais il y a un marché pour ça. Hein. Il faudrait qu'on pose la question à nos amis de Yes Yes pour voir quel a été l'impact pour eux, puisque eux, ils vivent de ça. Mais maintenant, comme les gens généralement se réfèrent au prix Apple, j'ai pas de vraie explication, à part qu'ils n'ont pas vraiment envie de reprendre des produits à ce prix-là.
François ?
Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent le système de reprise Apple? Quand on voit les tarifs de reprise et la vraie cote de l'occasion, ça n'a jamais été rentable de faire reprendre son matériel Apple ailleurs. Il y a le côté simplicité de se dire on s'embête pas avec le Bon Coin ou avec le marketplace de Facebook, oui, mais vous gagnerez toujours à revendre votre matériel par vous-même et le matériel Apple reste quand même très recherché. Nous, je sais qu'on vend régulièrement du matériel et on n'a jamais de soucis pour revendre le matériel à du particulier, il n'y a aucun problème.
Fabrice ?
Alors, je rejoins François qui a finalement répondu à sa question lui-même, c'est-à-dire qu'il y a le côté simplicité de revendre à Apple. On donne son ancien, on repart avec le nouveau. C'est d'ailleurs ce que Apple voudrait que tout le monde fasse avec les histoires d'abonnements matériels. On en reparlera dans d'autres prochains numéros. Moi mon analyse, c'est que c'est l'effet Apple Silicon. C'est-à-dire que le M1 et les suivants, ça fait badaboum. Tout le monde a plutôt envie de ça, et donc ça fait vraiment perdre de la valeur, et même la valeur intrinsèque au Mac Intel, dont on sait que la durée de vie est comptée. Ça fait des années qu'on est content de la durée de vie des Mac, et ça dure longtemps, ils ont les mises à jour, etc. Là, par exemple, acheter un Mac Intel aujourd'hui, donc même d'occasion, puisqu'il n'y a plus que l'occasion, on se doute que les mises à jour système pour les Mac Intel s'arrêteront plus vite que pour les Mac actuels à puce M1. Donc là, c'est vraiment le coup de bambou dû à la puce M1 pour moi. Et d'ailleurs, on voit bien que les baisses principales, donc par exemple pour l'iMac Pro, donc plus personne ne veut, mais pour les iPads, la baisse est moindre, parce qu'on est dans la continuité, alors que là, il y a la vraie cassure avec les Macs.
Le vrai problème, c'est que personne n'en voulait à la base de l'iMac Pro.
Oui.
Je voulais pas le dire, mais t'as raison.
Ben, en tout cas, à ce prix-là, en tout cas. Gilles ?
Oui, c'est ce qu'on disait vendredi dans i5, c'est qu'il y a cet effet Apple Silicon M1 qu'on a connu hein, quand on est passé du PowerPC à l'Intel. La cote de l'occasion a pris il y a eu une sorte de riff, si vous voulez. Et Apple a anticipé cette baisse, comme d'habitude, mais je trouve que Daisy, le robot de recyclage du matériel Apple, je trouve qu'elle prend cher cette fois-ci. Là.
Bon, en tout cas, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Hein. Si vous avez un appareil à revendre, essayez plutôt le marché de l'occasion, les petites annonces. Vous obtiendrez un meilleur prix.
Je peux glisser une pub pour mes camarades de MacToSell.net qui ont une cote de l'occasion qui est historique. Hein. C'était le premier sur le matériel Apple. Elle est maintenant régulièrement mise à jour. Il y a même deux cotes pour pas vous faire enfler. Une sur le matériel de particulier à particulier et une autre pour la reprise par des professionnels, et ça couvre maintenant l'ensemble de la gamme Apple, y compris le M1. Donc c'est un truc de référence auquel on peut vers lequel on peut se tourner.
Et donc l'URL, c'est mac2sel.net.
Voilà.
Merci Gilles. Bah, dans un instant, on passe à Pommes, le journal de la semaine. Pommes, et on commence par la production des MacBook Pro à l'usine Kanta de Shanghai, durement touchée par le confinement lié au retour du Covid. Cette production, elle a repris, mais elle ne dépasse pas 30% des quantités habituelles. C'est le vice-président de Kanta qui a donné cette estimation cette semaine. Et sa prévision la plus optimiste, c'est 50%. Ça explique directement les délais, Élie, pour notamment les MacBook Pro et le Mac Studio.
Oui. Oui, le problème, c'est le confinement qui est extrêmement strict, à tel point que pour la première fois, je crois, de l'histoire de la Chine récente, il y a même des habitants qui se rebellent contre le gouvernement et qui sont fortement réprimés. C'est-à-dire que les gens en ont marre, mais le confinement, il est ultra strict. Et dans une ville comme Shanghai, ça représente quand même un nombre incroyable d'habitants. Et donc, il y en a qui dorment dans les entrepôts, on l'a dit dans une émission, mais pas tout le monde. Hein. Donc, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez de monde. Et en tout cas, il n'y a pas que assez de monde. C'est que pour pouvoir produire des MacBook Pro, il faut avoir les composants, il faut avoir les pièces. Et les pièces, elles viennent d'autres usines, elles viennent d'autres villes, des fois. Et si Shanghai est fermé, les pièces n'arrivent pas. Donc, comment faire ?
Je disais tout à l'heure, ce que j'ai checké juste avant qu'on démarre cet enregistrement, on est sur le 19 août hein, au mieux pour un Mac Studio avec un M1 Ultra. 19 août, on est le 12 mai, hein, donc juin, juillet, août, ça fait toujours 3 mois et une semaine au minimum, hein, comme ce qu'on disait dans F5 il y a quelques jours. Et pour le MacBook Pro, bah, c'est au minimum le 4 juillet, donc presque 2 mois.
Et paradoxalement, on en reçoit quand même par très petite quantité. Donc, conseil, renseignez-vous. Il y en a dans les réseaux, dans les différents réseaux de distribution. Ouais. Tentez votre chance. Il y en a. Pas beaucoup.
Mais par contre, si vous voulez du modèle à la demande du CTO, là, par contre, bonne attente.
Là, il n'y a rien à faire.
On passe à la deuxième news de ce POMS cette semaine. C'est un départ de chez Apple. Un départ pour une raison pour le moins surprenante. Il s'agit de Ian Goodfellow, alors qui n'est pas n'importe qui, c'est ou c'était le grand patron du machine learning chez Apple. Et il était chez Apple depuis 4 ans et il a prévenu son équipe de son départ en invoquant le retour en présentiel comme l'une des raisons principales de sa décision. Je suis convaincu que plus de flexibilité aurait été la meilleure stratégie pour mon équipe. Alors, c'est peut-être pas la seule raison, mais en tout cas, ça a joué. Fabrice, est-ce que c'est significatif quand même d'un vrai changement d'esprit et de culture lié aux 2 ans qu'on vient de passer, notamment chez Apple ?
Alors, c'est ce que j'allais dire, notamment chez Apple. On a aux États-Unis une grande vague de I quit, je démissionne, de gens qui ne veulent pas retourner dans leur boulot parce qu'on leur demande de revenir au bureau, parce que soit ils ont peut-être encore un peu peur du virus, mais aussi, visiblement, ils ont pris de nouvelles habitudes, ils se sont aperçus pour beaucoup qu'ils peuvent travailler de chez eux, peut-être plus près de chez eux, dans d'autres conditions. Ça a fait réfléchir beaucoup de gens, et voilà que c'est un exemple chez Apple. On sait qu'il y a aussi, il y a eu déjà des lettres ouvertes envoyées à la direction d'Apple de tout un tas d'employés qui disaient « mais nous, on n'a pas envie de revenir, ou pas 5 jours par semaine, on a besoin de plus de souplesse ». Voilà, donc il semblerait que malgré la beauté du bel immeuble Apple, là j'ai oublié son nom déjà.
L'Apple Park,
voilà, c'est très beau, mais personne n'a envie d'y aller. Enfin, pas beaucoup. C'est un bel immeuble.
Ils n'ont pas envie de se faire parquer.
Très bon, très bon. Élie.
Oui, il y a un phénomène, il faut connaître la région, hein, donc pour savoir que ça peut jouer beaucoup, c'est que si on veut habiter pas très loin d'Apple, c'est-à-dire dans la vallée, les prix au mètre carré sont totalement prohibitifs. Il faut être milliardaire pour avoir une maison là-bas, du côté de Palo Alto, du côté de Cupertino, toutes les villes autour, c'est hors de prix. Donc il y a des gens qui habitent à San Francisco ou à South San Francisco parce que c'est moins cher. Et là, il faut savoir que le matin, il y en a pour une heure et demie pour aller bosser. Et le soir, ça peut prendre 2 à 3 heures pour rentrer parce que les autoroutes sont saturées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut jouer quand pendant 2 ans, ben, vous allumez votre ordinateur, vous êtes présent, vous appuyez sur un bouton, vous êtes chez vous et que vous savez que vous allez vous taper des heures de circulation. Et ben, il y a des gens qui doivent se dire non, ça me va pas.
Gilles, est-ce que ce départ peut avoir des conséquences et jouer un effet d'entraînement en fait pour d'autres?
Il est le bon camarade en question. C'est plutôt symptomatique en fait.
Tu parles de Goodfellow.
Goodfellow, exactement.
Depuis, on l'appelle Badfellow chez Apple. Hein.
C'est ça.
J'ai failli la faire dans i5, j'ai pas osé.
L'enfant qui se dévoue.
Et par rapport à la fonction qu'il occupait, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les projets en cours aussi? Parce que c'était juste le patron du machine learning.
Non.
Non, parce que l'intelligence artificielle irradie partout dans toutes ces boîtes de la tech. Et il a des adjoints. Il y a des gens qui seront ravis de prendre son poste avec autant de talent, peut-être sans doute pas, puisqu'il venait de chez Google et c'était à la base c'était un universitaire, donc Il n'avait pas volé sa position, mais il y a un turnover de toute façon dans ces boîtes et ça va. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est le fait que ça soit au sommet de la hiérarchie que ça arrive et que le symptôme, le malaise doit être profond.
La troisième news de la semaine dans ce POMES, elle nous emmène en Grande-Bretagne avec un début de mini-scandale autour d'Apple et de TikTok. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais c'est l'histoire d'une fillette de 10 ans qui se trouve être autiste, à qui ses parents ont offert un nouvel iPhone pour Noël. Ils lui ont confié sans activer aucune des sécurités dont est doté l'iPhone, notamment sur l'App Store. Et la fillette a fait 23 achats in-app après avoir été convaincue par un créateur dans TikTok de cliquer, quoi. Voilà. Et donc, les parents ont reçu une facture de près de 2 500 euros. En recevant la facture, ils se sont retournés contre Apple en demandant à ce que les achats soient annulés et remboursés. Apple leur a fait beaucoup de difficultés et c'est vraiment au terme d'un combat qu'ils ont finalement réussi à se faire rembourser, mais ils sont très remontés contre Apple. Et que vous inspire cette histoire ?
Des parents imprudents, parce qu'on ne confie pas un téléphone capable de faire des achats sans mettre des restrictions. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas l'ignorer. Le fait que cette fille ait eu des difficultés et que donc elle était plus facilement influençable par quelqu'un, il y a aussi une responsabilité de cette personne qui doit être identifiée, qui dans TikTok, voyant qui il avait en face, l'a quand même persuadé, c'est un abus de faiblesse, hein, donc de dépenser une telle somme. Hein. Apple, là-dessus, malheureusement, ils y sont pour rien et ils ont quand même remboursé. Donc,
D'autant que apparemment le téléphone précédent, l'iPhone précédent qu'ils avaient offert à la jeune fille, ils avaient activé le contrôle parental et le contrôle des achats. Oui. Si tu mets pas la ceinture de sécurité à ton gamin ou si tu ne mets pas sur le siège, s'il passe à travers le pare-brise, c'est pas la faute du fabricant de pare-brise.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un délai pendant lequel tu peux demander le remboursement d'achat comme quand on fait une vente par correspondance, par Internet?
Bah, le problème, c'est que ça se passe à travers TikTok et donc c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est du in-app. Généralement, quand tu achètes une app sur l'App Store et que tu veux te la faire rembourser, ils te la remboursent instantanément. Ils ne te posent pas de questions. Ils ne te disent pas pourquoi est-ce que vous voulez. Ils te la remboursent. Hein. C'est comme ça.
Si tu n'es pas satisfait.
Oui. Mais bon, là, ce qu'il y a, c'est que c'est 2 500 $. Ce n'est pas une app à 2 $ et ils te la remboursent tout de suite. Même un abonnement, tu lances un abonnement parce que tu t'es trompé et tu demandes à être remboursé, ils te le remboursent.
Donc, il y a un délai pour le faire ?
Généralement, c'est dans les 30 jours. Hein. Tu ne peux pas dire au bout d'un an, remboursez-moi. Mais dans les 30 jours, ils ne posent pas de questions. Jamais.
Fabrice ?
Pour moi, c'est tout le problème justement de la gestion de l'App Store par Apple. C'est-à-dire que tout ça est quand même un peu obscur et opaque. Et donc, quand on est client de TikTok, en dehors de cette histoire qui est un peu dramatique, on n'est donc pas client de TikTok, on passe par Apple et donc ça passe par la moulinette et donc on est obligé de se tourner vers Apple pour être remboursé parce que un vendeur via Apple ne peut pas rembourser ses clients en direct. Donc pour moi la responsabilité d'Apple elle est là, c'est dans son organisation de l'App Store. Après je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ellie, c'est-à-dire que tant que les règles n'ont pas changé, il faut bien essayer de protéger comme on peut ces enfants ou les autres par les outils proposés par Apple, et il y en a, donc on peut pas non plus dire qu'Apple ne propose pas d'outils. Pour moi c'est vraiment ça, c'est l'App Store qui n'est pas clair. On sait bien, c'est comme pour la presse qui passe par Apple News qui se plaint de pas avoir de rapport direct avec ses lecteurs. Il y a un vrai nœud à ce niveau-là, à mon avis. C'est ça que ça met en relief pour moi.
Ellie.
Mais le problème, c'est que même si Apple a un peu tardé, parce que je pense que l'affaire n'était pas simple à ce niveau-là, ils remboursent. Et généralement, Je vous assure que quand c'est un achat par erreur, ça peut arriver d'un enfant, ils remboursent vraiment sans aucun problème. Si on a des app stores tiers, hein, on va retomber dans le truc, faut-il du sideloading des app stores tiers, vous allez tomber sur des gens qui ne vous rembourseront pas parce qu'ils diront dans les conditions générales de vente, que vous n'avez pas lu, entre parenthèses, l'achat est final et point, et il n'y aura pas de remboursement. Et ils s'en foutent, puisque de toute façon, eux, ils n'ont pas une réputation comme Apple à sauvegarder, etc. Donc, c'est très dangereux dans ce cas-là.
Bon, faites attention. Faites attention avec les appareils que vous confiez à vos enfants quand ils sont configurés pour permettre le paiement sans passer par votre validation, évidemment. On tourne une page et on se retrouve pour les mises à jour de la semaine. Et on commence par une nouvelle mise à jour du firmware qui va vous enchanter puisqu'elle concerne toute la famille AirPods à partir des AirPods 2. Je vois Fabrice qui danse la rumba. Donc jusqu'aux AirPods Pro, AirPods Max inclus. Mise à jour 4E71. Depuis qu'elle est arrivée, est-ce qu'on a réussi à savoir ce qu'elle apportait de nouveau ?
Non.
Eh bien non, parce qu'on ne le sait jamais, voilà, et on ne saura pas.
Bon,
voilà, alors, merci beaucoup, sujet suivant.
je peux même pas vous demander, est-ce que cette mise à jour, on l'a fait ? Parce qu'on ne contrôle pas non plus.
Ben, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, donc on ne peut même pas la faire ou essayer de ne pas la faire, justement, ce n'est pas possible.
Elle se fait si elle veut, c'est ça ?
Si elle veut. On a essayé tous les trucs qui étaient donnés par les différentes revues, etc., les différents sites. Laisser les AirPods branchés à côté du téléphone. Moi, c'est resté toute la journée, il veut pas. Hein.
Je l'ai.
Mais comment il a fait ?
Toi, tu l'as ?
Ouais. En fait, 4, ce que j'ai dit dans...
2.71.
4.71, ce que j'ai dit dans i5 a donc marché.
Alors, c'était quoi, quelle partie ?
J'ai dansé. Ah non, pas celle-là. Finalement, j'ai pas eu besoin parce qu'il a fait soleil, très bien. Mais j'ai tourné 3 fois autour de ma chaise en chantant et voilà. Et youpi, ça a marché.
Donc toi, tu
l'as. On a eu du bol.
Ouais.
On a eu du bol. Nous, on a l'image, donc.
Exactement. Bon, écoute, si tu remarques un changement, tu nous diras, hein, parce que.
J'espère un changement, par exemple, que ça marche mieux, parce que je sais pas si... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, on a tous de temps en temps des énervements à propos des AirPods qui sont vendus comme des produits magiques qui se connectent tout seuls à l'appareil dont on a besoin, et franchement, ça marche pas terrible. Hein.
Quand ils veulent.
Voilà. Je pense qu'Apple nous écoute et ils savaient qu'on faisait l'émission, parce que je l'ai aussi.
Donc, Alors ça, tout s'arrange. Bon, voilà.
Quelle mauvaise langue nous sommes.
Vous avez donc probablement une mise à jour pour vos AirPods que vous allez recevoir sans vous en rendre compte. Si vous voyez ce code 4E71, c'est que vous êtes à jour. Autre mise à jour, cette fois-ci, elle concerne le firmware de l'Apple Studio Display. Deuxième mise à jour, encore une bêta. C'est la bêta 2 de la 15.5. Est-ce que tu as eu des nouvelles, Ellie, toi qui disposes de ce nouveau moniteur ?
Eh oui, mais le problème, si tu veux, c'est que pour la faire, il faut justement pouvoir installer cette bêta 2 de la 15.5 qui s'installe à partir du moment où tu as la bêta de Monterey, parce que sinon tu ne peux pas. Le problème, c'est que moi, ma machine où je joue avec mes bêtas n'est pas équipée d'USB-C. Et donc, le moniteur, je ne peux pas le connecter, le Studio Display. Donc, du coup, je ne peux pas faire la mise à jour. Alors que j'ai fait les mises à jour, justement, les bêtas, pour être sûr de pouvoir le faire. Et puis après, j'ai cherché toutes sortes d'accessoires pour pouvoir brancher de l'USB-C sur du Thunderbolt ou sur... Il n'y a pas. Donc, comme c'est la seule façon de connecter le Studio Display à un Mac, ben, si le Mac n'a pas d'USB-C, c'est mort pour l'instant. Donc il faut attendre que ce soit une version finale pour pouvoir y arriver.
Je peux te poser la question de ceux qui suivent, mais ont un problème comme moi. On a dit que le Studio Display tournait sous iOS 15.
Oui, mais c'est Monterey.
Alors pourquoi il faut un Mac ?
Pourquoi
il faut un Mac pour faire la mise à jour ?
Parce que c'est le Mac qui envoie la mise à jour. Et si on n'a pas Monterey, il n'envoie pas.
L'écran n'est pas connecté au Wi-Fi, au réseau. Il faut bien que ça passe par le Mac.
Oui.
Donc, c'est le Mac qui télécharge iOS qui l'envoie à l'écran, en fait.
Yes.
C'est d'une très grande simplicité. Dire,
s'il y a une puce il doit y avoir un module Wi-Fi.
Oui, mais qui n'est pas activé, visiblement.
Oui.
Hein,
c'est ça. Ce serait bien qu'il l'active.
Pas encore.
Mais il est en télétravail, je crois, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas s'activer.
En tout cas,
je
vous
peux
avez...
pas le faire pour l'instant. Voilà. Désolé.
Si... Donc, les conditions, c'est d'avoir un Mac. Forcément, si on a un studio display, c'est qu'on a un Mac pour le brancher. Et d'être sous la bêta de Monterey.
C'est ça. Voilà. La dernière bêta de Monterey.
Bon, eh bien, écoutez, bon
courage. On peut peut-être juste ajouter que donc, ce qu'ils essayent de faire, Apple, c'est des correctifs au niveau de la webcam pour essayer d'en améliorer la qualité. Visiblement, ceux qui ont fait la mise à jour pour l'instant, c'est pas encore ça. Moi, je suis pas très sûr qu'ils parviennent à obtenir une qualité vraiment, vraiment formidable. Au niveau de cadre centré, en gros, ici, ils ont remonté un peu le visage parce qu'il était trop au milieu de l'écran pour certains. Et donc, maintenant, quand le cadrage est plus le haut de la tête est plus proche du haut de l'écran, enfin de l'image. Pour éviter qu'on soit uniquement centré le nez au milieu de l'image. Mais voilà, donc pour l'instant, quand on voit des comparatifs, notamment le blogueur américain Jason Snell a fait un comparatif parce qu'il a deux écrans studio display chez lui. Il en a laissé un à l'état original et un autre avec la mise à jour. Et l'amélioration de la qualité d'image n'est pas flagrante, quoi. Donc c'est pas encore ça.
Non.
Mise à jour toujours, cette fois on va passer à l'iPad et à Photoshop sur iPad notamment qui récupère des fonctions déjà dispo sur la version Mac. Donc c'est la version 3.6, si je ne dis pas de bêtises, oui, de Photoshop pour iPad, qui profite un peu plus de l'intelligence artificielle d'Adobe pour faire du remplacement de contenu un peu magique. C'est-à-dire que si vous faites une photo, par exemple, dans un champ de tournesol et qu'il y a trois personnes au milieu des tournesols que vous voulez supprimer, bah, en gros, vous passez votre doigt sur les gens et puis automatiquement, Photoshop va non seulement enlever les intrus, mais remplacer la matière derrière les gens pour que on ne voit pas que l'image a été manipulée. Du nouveau aussi du côté d'Adobe, toujours, mais cette fois Premiere Pro, avec donc une version 22.4 qui ajoute notamment l'encodage hardware à la fois avec les Mac M1 et les Mac Intel. Et Adobe dit que les temps d'export pour des vidéos H.265 10 bits en 4.2.0, ben, ceux qui savent comprendront, peut aller 10 fois plus vite grâce à cette mise à jour. Bon, 10 fois plus vite, c'est pas mal.
C'est énorme.
On précise que les utilisateurs sous Windows ont le même genre de bénéfices. Une nouvelle version aussi de WhatsApp sur votre iPhone, sans doute, si vous avez de la chance, elle a dû arriver sans que vous vous en rendiez compte, avec trois nouveautés. D'abord, le transfert de fichiers, la taille maximale des vidéos passe de 100 mégas à 2 gigas. On était coincé à 100 mégas depuis 2017, hein, depuis que la fonction était arrivée. Deuxièmement, les chats de groupe, alors c'est vraiment si vous avez besoin, passe de 256 à 512 personnes au maximum.
Bah oui.
On ne sait jamais, ça pourra peut-être nous servir un jour. Et puis, il va être beaucoup plus facile de répondre à un message par un ou plusieurs emojis grâce à une rangée de 6 premiers emojis qui va apparaître. Alors, c'est toujours pas le cas sur ma version, mais peut-être que ça marche chez vous. Donc, 6 emojis qui apparaîtront très prochainement quand vous maintiendrez la pression sur un message pour y répondre. Vous aurez ces 6 premiers emojis qui apparaîtront juste au-dessus. Il suffira de cliquer sur l'un d'entre eux pour... qu'il soit envoyé avec votre réponse. Voilà pour ces petites nouveautés de WhatsApp. Tu veux dire un truc, Fabrice ?
Juste pour compléter, parce que ces histoires d'icônes qui apparaissent, c'est similaire à la fonction Tap Back de iMessage, On peut faire la même chose aussi pour... on laisse le doigt appuyer sur un message qu'on a reçu dans e-message et on a quelques options justement pour répondre rapidement. Et puis, ajouter aussi que moi je trouve ça très important le fait de passer de 256 à 512 personnes dans les messageries, dans les groupes de WhatsApp, parce qu'on sait que c'est une des raisons qui ont fait le succès de Telegram, qui permet d'avoir des groupes de plusieurs milliers de personnes, et c'est ce qui transforme Telegram en une sorte de réseau social un peu privé. Et c'est assez étonnant en fait que WhatsApp, propriété de Facebook, Meta, n'ait pas eu cette fonction avant. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant.
Merci Fabrice. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour les rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, on commence par Ming-Chi Kuo qui a encore frappé sur Twitter en affirmant que l'USB-C remplacera le Lightning sur l'iPhone 15, toute la gamme, en 2023. Fini le Lightning. Vous en pensez quoi, Ellie?
J'attends de voir. Déjà, il faut que le 14 arrive. Donc, Ming-Chi Kuo, dernièrement, n'est pas 100% fiable. Hein. Donc là, on est en train de parler d'un produit qui a plus d'un an, donc je ne sais pas.
François ?
Logique. Les iPads migrent petit à petit sur l'USB-C. Je pense qu'il y a un moment où Apple le fera. Surtout à mettre en avant, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, des formats vidéo très lourds, 4K, 8K, etc. Et c'est vrai qu'en transfert, même si le Wi-Fi marche bien, le filaire, c'est pratique. Le Lightning est bloqué en USB 2, donc ça paraît logique.
Gilles ?
Comme mon camarade de François, avec en plus la pression réglementaire de la Commission européenne, on en parlera peut-être la semaine prochaine.
Fabrice ?
Bah, tout comme mes camarades, j'ai rien à ajouter. Voilà, point.
Bon, alors, parle-nous plutôt de la disparition de l'encoche, qui serait aussi pour l'iPhone 15, je précise, sur toute la gamme, parce qu'on en parle déjà en partie pour la gamme iPhone 14, mais seulement sur les modèles Pro et Pro Max.
C'est ce à quoi on s'attend. Comme vous savez, vous vous rappelez peut-être l'encoche, moi je m'y suis jamais fait. Je change d'iPhone et que je passe à un iPhone, donc à un Pro ou Pro Max, pour le 14, avec des perforations en forme de i renversé sur le côté, peut-être que ça m'irait mieux. Moi finalement je comprends toujours pas la volonté de faire des trous en forme d'encoche ou juste de points dans un écran, alors qu'on pourrait mettre tous les capteurs un petit peu au-dessus et qu'on conserve l'écran pour afficher des choses. Ça me paraîtrait moi toujours plus logique.
Eddie ?
Ben, juste une précision, parce qu'il ne faut pas que nos auditeurs aient une information qu'ils ne comprennent pas. Le fait de faire disparaître l'encoche ne veut pas dire qu'il n'y aura pas effectivement le trou et le petit système, ce qu'ils appellent le pile, c'est-à-dire ce que vient de dire Fabrice au niveau d'un i couché. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'iPhone qui sera plein écran où on ne verra rien, hein, même si c'est le 15.
Oui, c'est plutôt le remplacement de l'encoche par un point d'exclamation.
C'est ça.
François ?
Ça paraît plutôt cohérent, la disparition sur l'iPhone 14 Pro et disparition complète sur l'iPhone 15, ça suivrait une certaine logique. On sent que ça pousse de ce côté-là. Maintenant, je trouve ça toujours dommage, on a maintenant l'encoche sur les MacBook Pro et on va les enlever sur les iPhones, c'est pas grave, c'est comme ça.
Bon, Gilles, ça te parle ?
L'écran a gagné un tout petit peu, et à droite et à gauche dans les coins, et Apple il s'en sert pour afficher... Donc l'heure, et puis les états de batterie à droite, le Wi-Fi et l'état de la connexion du réseau GSM. Donc voilà, si on peut gagner encore de la place au milieu maintenant, tant mieux, mais ça ne m'a jamais choqué plus que ça.
Ok. Alors, autre rumeur à propos de l'iPhone 14, le Pro et le Pro Max, concerne les tailles d'écran selon des dimensions très précises que Ross Young, l'analyste, a tweeté. Plus 0,06 pouces pour le 14 Pro selon lui, plus 0,01 pouces pour le 14 Pro Max, mais on retenait juste que les écrans seraient très 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 légèrement plus grands sur la prochaine gamme d'iPhone Pro et Pro Max. Petit coup de chapeau à Ken Pilonel, cet ingénieur qui avait déjà frappé un grand coup en créant le premier iPhone avec un port USB-C, on en parlait tout à l'heure, à la bricole, hein, vraiment en démontant et en faisant un gros boulot d'ingénierie pour remplacer le Lightning par un port USB-C. Eh bien, il vient de recommencer un exploit comparable. Cette fois, avec un étui d'AirPods, il a aussi remplacé le port Lightning par un port USB-C. Et comme on le disait avec Fabrice dans i5, c'est hyper bien fait, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est un produit d'origine Apple, François.
Ouais, c'est assez bluffant, c'est toujours marrant de voir à quel point ce que ne fait pas Apple, d'autres sont capables de le faire à sa place. Maintenant, voilà, ça reste du bricolage et c'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, je pense qu'Apple y passera à un moment ou à un autre et abandonnera le Lightning, ça peut pas être autrement. C'est dans l'ordre des choses, donc sur tous les périphériques, ce sera le cas aussi.
On reparle des Apple Glass dans les rumeurs de la semaine avec un nouveau brevet déposé par Apple. Alors, il concerne une technologie d'auto-nettoyage, alors non pas des verres, mais des modules optiques. Hein, c'est le terme utilisé dans le brevet. Et quand on lit le brevet, on s'aperçoit qu'il s'agirait d'une technologie à base de vibration qui nécessiterait du coup un petit réservoir à poussière. Alors, j'imagine mal tout ça sur une paire de lunettes, mais l'idée quand même, c'est d'avoir un champ de vision le plus propre, le plus net possible. Élie.
Mais oui, ça fait un peu rêver. On a un peu de mal à comprendre comment ça va marcher, mais on espère que ça va le faire. A priori, Apple y croit, hein, donc moi j'y crois.
Fabrice.
Ouais, je me marre parce que ça fait un peu rêver et j'imagine le petit tiroir à poussière qui sort des lunettes. Alors moi, ça me fait pas rêver, quoi.
C'est ça. Non, mais des lunettes toujours propres, ça fait un peu rêver, hein.
C'est vrai. Écoute, moi, ça me fait penser. Vous connaissiez les lunettes avec des essuie-glaces quand il y avait
oui.
de la neige.
Oui.
on est un peu limite lunettes essuie-glaces, je trouve.
Exactement. Bon, ça fait aussi penser à la fonction de l'Apple Watch qui fait aussi vibrer quand on. Si on se baigne avec dans une piscine, on peut faire vibrer pour faire sortir l'eau du haut-parleur de l'Apple Watch.
Pas faux.
Ils se sont peut-être inspirés de ça. Voilà. Donc il y a des choses à faire quand même sur les appareils électroniques qu'on porte pour les tenir propres et utilisables. Et
si ça marche aussi bien que sur les capteurs d'appareils photo, je pense qu'ils peuvent s'épargner beaucoup de peine et de coûts de fabrication et laisser tomber.
Pour toi ça marche pas.
Non, ça marche. Il y a toujours des trucs à la longue qui restent.
Qui restent. Ouais, c'est pas faux. Alors on reparle aussi des écrans pliables dans les rumeurs de la semaine. Alors c'est en liaison avec une techno que Samsung utilise déjà pour son Z Fold 3. Ça consiste en fait à rendre l'écran très très fin en supprimant l'une des couches, la couche polarisée. Dont en fait l'utilité serait transférée à un filtre de couleur intégré directement dans le film principal de l'écran. Ça permettrait de faire un écran LED encore plus fin, tellement fin qu'il pourrait se plier. Et apparemment, Apple continue de travailler sur le sujet. On cherche toujours l'usage, hein, parce que Samsung ne nous a pas complètement convaincus pour l'instant.
Alors j'ai un exemple à vous raconter, si vous me donnez une petite minute. Pour vous raconter ma vie personnelle, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi pour réparer une machine à laver. Et le gars est arrivé. Mais oui, et le gars est arrivé avec sa mallette à outils, ses tournevis, ses marteaux et tout ce qu'on veut. Je vous rappelle que je ne suis pas bricoleur, donc je ne sais même pas le nom des outils. Cela dit, il avait un Z Fold 3 avec lui. Et donc une fois qu'il a eu terminé, je lui ai demandé s'il en était content et comment ça se fait qu'il avait ça. Et il m'a dit, ah oui, c'est génial, parce que, donc lui, il utilise essentiellement l'écran externe, donc qui ressemble à un écran d'iPhone un peu allongé, mais il passe beaucoup, enfin souvent il a besoin de montrer une pièce à un client en disant bah, je vais vous montrer le catalogue, vous pourrez choisir, voilà combien ça coûte, et à ce moment-là il l'ouvre et il a un écran beaucoup plus grand et beaucoup plus confortable pour montrer au client. Et il m'a dit c'est génial, et donc ça me fait gagner du temps en lisibilité, etc. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la résistance aux rayures, du fait qu'il y avait une pliure au milieu de l'écran, est-ce que ça le gênait? Ça le gêne pas du tout, et il était vraiment ravi. Il a ça depuis 6 mois, et c'était la première fois que j'avais un exemple grandeur nature d'un usage de smartphone pliable que j'ai trouvé vraiment intéressant. Lui, par exemple, le fait que ce soit un peu épais, un peu lourd, ça le dérange pas du tout. Il a déjà une mallette à outils qui pèse 12 kilos. Rajouter ça dans sa poche, dans ses poches qui sont elles-mêmes pleines d'outils, ça le dérange pas du tout. Et il avait aucun problème de fiabilité depuis 6 mois qu'il l'avait. Mmh. Voilà, je trouvais ça intéressant.
Bon, Eli, pour toi, tu le disais dans i5, hein, l'épaisseur, c'est vraiment l'enjeu. Hein.
Oui. Moi, je pourrais pas avoir un téléphone qui soit épais, même s'il se plie. Moi, je vois plus ça dans une tablette. Donc, mais on va voir si Apple arrive à faire un téléphone fin.
Mais ce qui te manque, Ali, c'est que toi, tu répares pas les machines à laver. C'est tout.
Voilà. Pas encore. Maintenant, tout est possible. Maintenant que tu as du temps et que tu vas pouvoir récupérer ton épaule gauche.
Exactement.
Bientôt.
Hein? Bon, si vous espérez la deuxième génération des AirPods Max, il va sans doute falloir vous contenter de nouvelles couleurs dans un premier temps. Mark Gurman, notre ami de Bloomberg, confirme dans sa newsletter Power On que de nouvelles couleurs vont arriver sans doute cet automne, en même temps que les AirPods Pro 2 qu'on attend. Ça fera quand même presque 3 ans, mais pas de deuxième génération des AirPods Max là tout de suite. François, toi, tu as rendu les tiens. Hein,
je vais pas tarder à les renvoyer parce que je trouve que c'est un très bel objet, mais ça ne me convient pas au niveau morphologique. Je rejoins un peu ce que disait Jean-Christophe à l'époque. Moi, c'est pas le poids qui m'a gêné, mais c'est aussi la pression sur les oreilles. Je dois avoir des grandes oreilles. C'est peut-être à force de se les faire tirer, je sais pas. Oh. Mais je trouve ça pas confortable sur la longue durée. C'est vrai que je les ai un peu achetés dans l'optique de les garder sur de longues sessions de travail et ça m'a pas convaincu, donc je les renvoie et je sais pas, peut-être me laisser tenter par des AirPods Pro ou par les AirPods 3 qui sont pas mal aussi, je pense.
Bon, Jean-Christophe, qu'on salue du côté de San Francisco, si j'ai bien suivi ces derniers périples. Sonos s'apprête à lancer son propre Siri, ce serait prévu pour le 1er juin aux US dans un premier temps. Pour l'activer, bah, ce sera pas très original, ce serait Hey Sonos. Alors Ellie, une barre de son est annoncée, enfin en tout cas est pressentie, une barre de son grand public, moins chère que les autres, et avec cet assistant vocal intégré.
Oui, et qui sera compatible Apple Music, et c'est ce qu'ils mettent en avant.
Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, allez, la dernière rumeur de la semaine, bah, c'est un nouveau coup dur pour Will Smith. Bon, il a un petit peu du mal à se remettre des Oscars, hein, notre ami Will, puisque la série Émancipation dans laquelle il joue et qui, normalement, doit sortir à la rentrée, apparemment, elle serait repoussée à 2023. Est-ce que pour vous, c'est la conséquence directe du bad buzz qui s'arrête pas vraiment pour lui?
Moi, je crois qu'il est temps de tourner la page. Hein. C'est...
Oui, sûrement, mais ça va le suivre encore longtemps. Il me semble que c'est Eli qui avait dit ça dans i5, et je suis assez d'accord. Apple doit aussi attendre justement que la page soit un peu tournée pour que quand la série sort, on parle de la série et pas de la baffe donnée par Will Smith.
Ouais. Et vous croyez que c'est pour ça qu'il la repousse?
C'était moi.
C'était François.
C'était moi.
On te rend tes lauriers, César.
C'est vrai.
Puisqu'on parle d'Oscar.
Absolument.
Allez, on se retrouve dans un instant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'heure du dîner. Et, et Ellie, tu passes en cuisine, n'est-ce pas?
Mais oui.
Alors, à tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés pour savourer le repas que tu nous as concocté, Ellie. Eh ben écoute, on est tous autour de la table et on est prêts pour l'entrée.
Et oui, ben pour l'entrée, c'est un raté. Hein. Donc j'avais intitulé ça en début de chronique, il y en a qui ont essayé ou qui ont cru, ils ont eu des problèmes. Et en fait, c'est une enquête. C'est une enquête sur la dégringolade actuelle des NFT. Vous savez, on en a parlé, les non-fungible tokens, qui ont connu un démarrage un tout petit peu en flèche, et puis qui maintenant se cassent vraiment la gueule, puisque il y a un article très complet publié par CNET que je vous conseille. Et donc, il y a des produits que des gens ont achetés jusqu'à 400 000 dollars pour avoir un dessin d'un singe qui fait la tête. Et qui ont perdu 43% de leur valeur. Et en fait, l'ensemble de ces tokens sont en train de se casser la figure, y compris des NFT créés par Reese Witherspoon elle-même sur le monde de la femme et en fait qui sont passés de 34 000 dollars le token à 10 000. Donc, bon, mais à côté de ça, il semblerait que toutes les crypto-monnaies soient en plongée aussi. Donc, ce monde du virtuel, décidément, a beaucoup de mal à passer. Et dans l'article, il y a plein d'exemples. Il y a même les photos horribles de ces singes qui font la tête et que moi, personnellement, je ne mettrais pas un centime. Et les mecs payent 400 000 dollars, ça me rend fou.
Bon, tout est en train de se casser la gueule en ce moment, hein, en même temps.
Hein. Mais là, c'était du virtuel-virtuel.
C'est vrai, c'est très virtuel. On passe au plat de résistance et j'ai pas l'impression qu'on revienne vraiment dans le monde réel.
Non, on reste toujours là-dessus et on a la possibilité pour la première fois de voir à quoi ressemble la nouvelle boutique Meta qui ouvre, en fait, non, qui a ouvert hier, en Californie. Et on voit, il y a des magnifiques photos et on se rend compte d'un peu de ce que veut faire Meta. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais c'est une boutique en bois clair, hein, puisque vous n'avez pas les images à l'écran, mais où on voit des tas de lunettes. Ils ont fait un mur avec un énorme écran où il y a toujours le mec qui veut essayer le casque à réalité virtuelle qui se place et qui vit des aventures folles. Et nous, on regarde sur un écran géant les malheurs qui lui arrivent, en fait. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Et à côté de ça, on peut acheter les célèbres lunettes Ray-Ban de chez Meta qui vous permettent de prendre des photos n'importe où. Et donc de se faire casser la gueule régulièrement si vous prenez la photo d'une jeune fille qui passe à côté de vous et qui est accompagnée. Mais voilà. Donc la boutique a l'air très jolie. Maintenant, est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Mais comme elle vient d'ouvrir, il fallait en parler.
Comme tu disais au départ, il y en a qui ont essayé. Samsung, oui. Etc. Sony.
Heureusement qu'avec les moyens de Facebook, elle est jolie, la boutique. Il manquait
elle
plus qu'elle soit
très belle.
Ouais. Bon, le dessert, Ellie.
Mais oui, c'est
du
c'est
concret
grâce à...
là, du concret.
Oui, bah c'est du concret. Non, parce que ça, c'est encore du virtuel, parce que ça ne s'est pas réalisé. Mais en fait, on apprend grâce à Mark Gurman, encore une fois, qu'Apple avait des projets pour nous. Vous savez qu'ils cherchent à gagner de l'argent sur tous les services.
Ah.
Et donc, figurez-vous qu'ils ont réfléchi et fait une étude de cas pour livrer des courses à domicile chez les gens, un peu comme Uber Eats, donc, bon, ou Deliveroo. Ils ne l'ont pas fait, hein, mais ils ont réfléchi, on a failli avoir ça. Apple chez soi, donc on téléphone et avec Apple Pay, on se fait livrer directement. Donc, mais ils croient qu'ils réfléchissent quand même à d'autres services et ils cherchent partout comment rajouter des services. Et donc, il y a un nouveau truc qui s'appelle Apple Pay Later, ce qui veut dire... Vous faites de l'Apple Pay, mais vous ne payez pas tout de suite, vous payez plus tard. Donc, voilà, donc, voilà, ils cherchent tous les moyens. Vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Achetez quand même, vous payez plus tard. Donc, c'est, voilà. Donc, ils veulent développer leur service et why not?
C'est pas le principe de l'Apple Card et des cartes de crédit aux États-Unis?
Oui, mais là, c'est un bon. En tout cas, ce dont parle Mark Gurman, c'est un service qui s'appelle Apple Pay Later. Et basé sur le principe du tap-to quelque chose. Donc, une action très simple qui permet de déclencher un paiement Après, avec quel contrôle? Je ne sais pas. On n'a pas les détails parce que pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel.
Un pas de plus pour que Apple devienne une banque.
Exactement, Fabrice. Merci, Ellie, pour ce dîner. Il est temps de se reconcentrer et de suivre mes conseils pas à pas. C'est l'heure du tuto audio. Comment extraire l'audio de vos vidéos ? Séparer le son d'une vidéo pour ne conserver qu'un fichier AAC ou MP3. Alors, je ne sais pas si vous en avez l'utilité de temps en temps.
Certainement.
Oui, bien sûr. Oui. Oui.
Moi, j'en ai tout le temps besoin. Je vous donne deux moyens d'y arriver sur Mac. Alors, la première méthode, si vous êtes sous macOS Big Sur ou Monterey, elle est très simple. Il suffit de faire un clic droit sur une ou plusieurs vidéos dans le Finder. Un menu déroulant apparaît. Tout en bas, choisissez « Encoder les vidéos sélectionnées ». Une deuxième fenêtre va apparaître au centre de votre écran. Elle va remplacer la première. Elle est intitulée « Encoder le contenu multimédia ». Elle comporte un menu déroulant qui s'appelle « Réglages ». Vous cliquez dessus, vous déroulez jusqu'à « Audio seulement » pour extraire l'audio au format AAC avec une extension M4A. Ou vous pouvez aussi choisir Audio ProRes pour extraire le son en qualité non compressée. Vous validez et votre fichier audio nouvellement créé se retrouvera au même emplacement que la vidéo dont il est extrait. La deuxième méthode, elle consiste à ouvrir votre fichier vidéo avec QuickTime Player. Vous allez dans le menu Fichier, puis dans Exporter comme, puis vous choisissez Audio seulement. Vous donnez un nom à votre fichier, vous choisissez son emplacement et vous validez. Voilà deux méthodes très simples pour récupérer le son d'une vidéo. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment faire avec un iPhone ou un iPad grâce à un raccourci. Les coups de cœur de la semaine et on commence avec qui ? François.
Ouais, moi je voulais juste faire un petit coup de cœur et un petit rappel. Vous avez la troisième édition de Command IT, les administrateurs, la conférence à destination des administrateurs et administratrices Mac qui va avoir lieu le 9 et le 10 juin. C'est un jeudi et un vendredi au Parc du Futuroscope, comme la première édition qui avait eu lieu en 2018. Donc c'est organisé par nos amis Guillaume Jette et Bertrand Pourcel. Donc je vous incite fortement pour ceux qui sont de près ou de loin liés à ça, ça va être hyper intéressant, c'est des moments d'échange, on a eu l'occasion de s'y croiser il y a 3 ans déjà avec Benjamin et Ellie. On avait croisé Guillaume, Audrey était venue, Audrey Coulot aussi, donc n'hésitez pas, les conférences promettent d'être vraiment intéressante. Et pour information, j'aurai la joie d'animer une conférence sur la gestion d'un parc Mac dans une université.
Voilà. Formidable, avec François Le Truédic en guest star. C'est quoi l'adresse du site, François ?
Commande-it.fr.
Génial. Bonne chance à nos amis pour ce nouveau numéro de Commande IT qui revient. Et c'est une très très bonne nouvelle. Fabrice, un coup de cœur ?
Oui, un coup de cœur. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Twitter et d'Elon Musk, je voulais signaler et conseiller la lecture d'un livre paru en 1985 qui s'appelle en anglais Ender's Game, en français La stratégie Ender, d'un auteur qui s'appelle Orson Scott Card. Et je signale ça. Alors, je mets une petite pincette. J'ai appris depuis que je l'ai lu, malheureusement, que l'auteur a eu quelques propos homophobes que je regrette beaucoup. Je vais mettre ça de côté, mais je voulais quand même le signaler. Et sinon, dans ce livre, qui est un de mes livres préférés, je fais le lien avec Twitter parce que, donc, je rappelle, ça date de 1985 et il y décrit des réseaux comme Internet, mais aussi des réseaux d'échange et une façon éventuellement de pouvoir gérer l'anonymat ou pas sur les réseaux. et avec deux réseaux de discussion. Imaginez deux Twitter où sur l'un il y aurait l'obligation d'être de parler sous sa propre identité réelle, et de l'autre un autre réseau sur lequel on pourrait être anonyme. Et c'est une grande partie du livre et de la gestion des personnages qui n'est pas du tout montrée dans le film, que je ne conseille pas, mais je conseille vivement la lecture de ce bouquin qui donne des idées sur ce que pourrait être la gestion de Twitter aujourd'hui. Je trouve que c'est très fort, en plus d'être un bon bouquin, d'avoir écrit ça en 1985. Ender's Game, la stratégie Ender de Orson Scott Card.
Merci Fabrice. Moi, mon coup de cœur, en fait, c'est juste un clin d'œil légèrement décalé à Dr. Dre. La petite vidéo qu'il a postée au moment de la vente de Beats lui a quand même fait perdre 200 millions de dollars, puisqu'elle a éventé l'annonce du rachat de Beats par Apple. Et dans cette vidéo, il se vante d'être le premier milliardaire du hip-hop. Je suis pas sûr qu'avec les 200 millions de moins, il puisse continuer à dire qu'il est devenu milliardaire grâce à cette opération. Voilà. La morale de l'histoire, c'est si vous avez une grosse affaire sur le point d'être annoncée par votre partenaire, ne lui volez pas la vedette. C'est la fin de cet épisode 90. Merci de votre fidélité. Grand plaisir de vous avoir retrouvé. Vous qui nous écoutez, qui êtes de plus en plus nombreux. Vous qui êtes là, mes amis. Je vous salue tous les quatre. Elia Bitbol, François Le Truédic, Fabrice Neumann, Gilles Dounès. N'oubliez pas patreon.com/iWeek, Twitter @iWeekNews pour nous suivre, le hashtag iWeekLSA et évidemment iFive en quotidien, le podcast avec nos 5 infos essentielles tous les jours. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 91. On sera le 19 mai. Prenez bien soin de vous, profitez du soleil. Allez voir Doctor Strange numéro 2 comme Ali dans quelques instants. Salut à tous, bonne fin de semaine, bon week-end et à jeudi prochain. Bye bye.
Salut à tous et à toutes. Bye. Ciao. Bye.